Bonjour à tous. Vous allez bien? C'est un plaisir d'être avec vous. Une fois de plus, le Seigneur fait de grandes choses, comme a dit votre pasteur, un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui nous encourage, voilà, de voir que les promesses du Seigneur, lorsqu'il dit qu'il est avec nous, il est véritablement avec nous et il fait son œuvre. Parce que l'Église, c'est son œuvre, c'est lui qui bâtit l'Église. Mais en même temps, il l'a bâti avec qui? Il l'a bâti avec vous. Pas seulement avec les pasteurs, les missionnaires et autres, parce que ça ne suffit pas. Voilà, Dieu a besoin de tout son peuple pour la moisson. Et donc, ce matin, on va partager sur notre rôle d'ambassadeur. Alors, si vous sentez-vous libre ce matin, si j'ai déjà prêché avec vous là-dessus, il ne faut pas hésiter à me le dire et j'ai autre chose juste derrière parce que j'ai développé une série comme on intervient dans beaucoup d'églises en même temps. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur une série dans laquelle on avance progressivement et qui permet de sensibiliser les églises, les chrétiens sur notre appel en tant que croyants, en tant que disciples, sur la moisson justement, sur le service. Ce ne sont pas seulement les ministères. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les ministères qui sont appelés à atteindre le monde, parce que les ministères sont appelés à l'édification du corps de Christ, l'enseignement, le soin du corps de Christ, la croissance du corps de Christ. Mais en termes d'évangélisation, en termes de témoignage, en termes d'atteindre les perdus, c'est le corps de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Les amis ne sont pas unanimes. Mais en tout cas, c'est la Bible. Moi, je ne vous annonce pas l'évangile selon Karim, c'est l'évangile selon Christ que je vous annonce. Et c'est... moi-même, j'étais troublé dans ces quelques dernières années de voir comment le Seigneur insiste sur ces aspects et comment le Seigneur a fait l'œuvre du temps où il était là et celle à laquelle il nous appelle en même temps dans nos temps modernes, si on peut dire les choses comme cela. Et juste pour commencer, un petit texte que vous connaissez tous. Vous savez, le texte qui parle sur la moisson, où Jésus donc nous dit dans Matthieu, ceux qui veulent le prendre, Matthieu 10, 37, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est abondante, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, ou au Père, selon les versions, à qui appartient la moisson ?» Vous avez entendu ça? Le Père, à qui appartient la moisson? Elle n'appartient pas à Satan, la moisson. La moisson, à qui appartient la moisson, donc? Demandez au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour faire quoi? Pour la rentrée. Vous vous souvenez, la dernière fois, je suis venu, j'ai prêché sur quoi? On va faire un petit test. Amen. Les œuvres préparées d'avance. Et vous avez vu comment c'est troublant, parce qu'en fait, on comprend que le Seigneur a déjà tout préparé d'avance, tout est déjà établi, il n'y a plus qu'à rentrer dans ces choses et à faire l'œuvre. Mais l'œuvre, elle est potentiellement déjà réalisée. On doit juste, nous, l'accomplir, simplement. Et on a la preuve avec Christ sur la croix. Tout le plan biblique est basé sur les œuvres préparées d'avance. Christ dit à son Père, en tout cas, il dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli parce que tout avait été annoncé par avance. Et pour nous, dans la dimension de l'Église, il en est de même. Les œuvres sont préparées d'avance. Et Christ veut que nous accomplissions ces choses, tout simplement. Et la moisson, on pourrait penser, nous, chrétiens, les ministères, oui, nous sommes les meilleurs, attention, nous allons travailler... non pas à la moisson, mais à cultiver le champ. Mais le Seigneur ne nous a pas appelé à cultiver le champ. Il ne nous a pas appelé à travailler la terre, même si on est les semeurs de la parole, c'est l'image. Mais en tout cas, en termes, et c'est troublant de voir, on a l'impression que le message biblique se contredit, mais il ne se contredit pas. On est appelé à semer, à jeter le pain à la surface des eaux. Mais en même temps, en termes d'âme sauvée, Christ ne nous appelle pas à travailler la terre, à semer, il nous appelle à rentrer la moisson. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? C'est quoi la moisson? En agriculture, la moisson est la récolte de plantes à graines. Le blé, en général, c'est des céréales. Le terme s'emploie préférentiellement pour les céréales à paille. Pour le maïs, on parle plutôt de récolte. Donc, moisson, récolte, c'est la même chose. C'est juste des termes différents pour des types de cultures différentes. Vous êtes avec moi? La moisson est prête. Et il veut des ouvriers pour faire quoi? Pour la rentrée. Mais la moisson, on peut la trouver que si on entre dans les œuvres préparées d'avance. Sinon, on va essayer de travailler par nous-mêmes pour en tirer des gloires et dire, ouais, moi j'ai pas vu ça, moi j'ai fait ça. Et puis après, on travaille pendant 15 ans, 20 ans, on a usé notre santé, notre fatigue, notre argent, et on n'a rien rentré comme récolte parce qu'on a travaillé dans un champ où le Seigneur ne nous a pas appelé à travailler. Par contre, si on est à l'écoute et qu'on veut faire sa volonté, et qu'on a ce désir, et surtout qu'on obéit à sa parole, tout simplement, et qu'on prend ce mandat qu'il nous a donné en tant que disciples d'entrée, et que nous sommes les moissonneurs, alors il va nous conduire là où la moisson se trouve. Et vous savez, il n'y a rien de plus facile qu'à rentrer à la moisson. Hein. Je ne sais pas si certains ont travaillé dans des champs. La moisson, il y en a qui sont là et qui coupent justement la culture. Ils en font des fagots et puis ils rentrent cela. Bon, maintenant, c'est mécanisé. Mais ensuite, on rentre la récolte. Pourquoi ? Pour pas qu'elle se gâte. Si la pluie arrive ou l'humidité, on rentre la moisson. Et cette notion, on la retrouve de partout dans le Nouveau Testament. Et je vous donne cette petite chose pour vous sensibiliser et faire naître en vous, refaire peut-être brûler un feu pour vous faire comprendre que les choses du Seigneur sont légères, sont simples, sont faciles et elles nous bénissent. Et on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas vivre le bonheur dans notre vie de croyant si on ne fait pas ce à quoi nous sommes appelés. De moins en moins d'amen. Ambassadeur pour Christ, c'est ce que nous sommes. Voilà, et c'est pas seulement une image, une vue de l'esprit, mais c'est une réalité. Et ce qui est étonnant dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a cet équilibre entre les choses temporelles, les choses de ce monde, les choses humaines que l'on peut comprendre, mais il y a souvent une application spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des leçons à tirer des choses, même dans les histoires que Jésus a racontées, il parlait de choses d'ici-bas, mais il y avait une application spirituelle. Il voulait nous faire comprendre quelque chose, il y avait un parallèle spirituel, et c'est ces choses-là que Jésus, en tout cas que le Saint-Esprit, nous invite à comprendre. Et j'aimerais même dire que c'est pas toujours acquis. On pense que c'est magique. Vous voyez, on est venu à Christ, on est devenu des robots, et puis bon, on est branché là, et puis Jésus injecte, le Saint-Esprit injecte les choses en nous. Non, nous ne sommes pas des robots. On peut venir à Christ et 20 ans après être toujours les mêmes, ou on peut venir à Christ et en 2 ans, on a compris beaucoup plus que certains qui sont convertis depuis 20 ans. Parce qu'il y a une soif, il y a un désir, il y a un cœur, il y a une disposition, il y a une recherche. Et vous remarquerez que dans le message de Jésus, il y a toujours de l'action. Chercher, frapper, aller. Il n'y a pas la passivité, vous voyez. Ça, c'est la pensée religieuse. Non, avec Christ, c'est de l'action en permanence. Et en matière de connaissance, d'enseignement de la parole de Dieu, de révélation, eh bien, Jésus nous fait des petits clins d'œil, nous fait des signes sans tout nous dire, parce qu'il veut exciter en nous une envie de comprendre. Il y a quelque chose qui sonne bizarre dans ce que tu dis, Jésus. Tu veux dire quelque chose de plus. Vous savez, quand on dit « il faut lire entre les lignes », eh bien, avec Jésus, il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les phrases qu'il nous dit. Parce qu'il essaie de nous amorcer avec des notions. On ne comprend pas tout, mais on sent, le Saint-Esprit nous montre qu'il y a quelque chose à aller chercher. Là, vous êtes avec moi, vous avez vécu ces sensations. Et c'est cela, comme ça, tout le temps. C'est pour ça que Jésus parle de mystère. Jésus parlait en parabole, parce qu'il n'était pas réservé à tous de comprendre. Alors, il parlait en parabole à tous, et ensuite, avec les disciples, il se mettait à part et il donnait l'interprétation. Les disciples ont demandé, mais pourquoi tu parles? Parce qu'il n'est pas réservé à tous de comprendre les mystères du royaume. Et même dans les paraboles, même avec l'interprétation de Jésus, il demeure du mystère. Parce que Jésus veut que nous continuions à creuser. Et nous aurons l'occasion, les prochains mois, à travailler, de méditer sur les paraboles du Seigneur, les paraboles notamment qui touchent au royaume. Et c'est juste bluffant. C'est juste troublant. Et le Seigneur nous a donné des clés. Et je vois cela, moi, dans le monde missionnaire, où il y a une révolution véritablement depuis ces 10 dernières années, et où il y a un recentrage sur la parole de Dieu. Un recentrage. Et ce recentrage s'est fait sur les paraboles de Christ qui touchent au royaume. Et la démonstration, la preuve est que Jésus, la première parabole qu'il a donnée, c'est laquelle, vous vous souvenez? C'est pas une interro, détendez-vous, souriez, tout va bien. La première parabole que Jésus donne, c'est celle du semeur. La parabole du semeur, vous vous souvenez, les 4 terrains, le semeur qui sort pour semer. Et Jésus, un peu plus loin, nous dit que, nous fait comprendre, à demi-mot, celui qui comprend cette parabole pourra, sera capable de comprendre les autres.
Cette parabole du semeur est la clé pour comprendre les autres. Si on n'a pas compris celle-là, les autres, on va dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte là, Jésus? On ne comprend rien du tout. Et dit, si vous n'avez pas compris ça, comment pouvez-vous prétendre comprendre le reste si vous n'avez pas compris cette parabole? Et dans le monde missionnaire, il y a eu aussi des hommes qui se sont tenus devant le Seigneur, des couples qui ont prié, qui ont crié à Dieu, et Dieu les a éclairés sur ces choses-là. Ils nous ont transmis, et c'est juste une révolution dans nos cœurs et dans la façon de travailler, dans la façon d'entraîner aussi les autres pour rentrer la moisson. Et moi, je n'ai pas eu besoin, en tout cas, bien avant même de travailler activement dans les milieux missionnaires, je n'avais pas besoin de ces choses pour comprendre qu'on était tous concernés. Vous êtes avec moi ? On est tous concernés en matière de royaume. Voilà. Et moi, c'est ça que je vais essayer de faire avec vous. Je ne peux pas vous convaincre, mais je crois que le Saint-Esprit, lui, peut nettoyer et ôter des choses de vos mentalités, de vos pensées, de toute trace de schéma religieux, de schéma mécanique, vous savez, du mérite, et de ces choses structurées qui sont juste des relents de la religiosité, de nos religions passées. Parce que malheureusement, même dans nos églises, nous voyons beaucoup de choses qui sont reproduites. Et c'est tout simplement le schéma religieux que certains vivaient, qu'ils ont reproduit dans l'Église. Mais ce n'est pas ce à quoi Christ nous appelle. Et c'est pour cela que nous portons si peu de fruits. C'est parce que le travail repose sur quelques hommes. Mais ce n'est pas ça la Bible, ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est que toute l'Église soit en action. Puisque nous sommes son corps, est-ce qu'un corps, juste la tête peut être active? Vous savez, si c'est juste la tête, le corps va être par terre, il va attendre. Le corps, la tête a besoin des membres. Christ est la tête, mais nous sommes le corps. Pour qu'un corps soit en mouvement, il faut que le corps bouge, qu'il se lève. Et donc que nous reposions sur ceux qui sont les jambes, les pieds, et que nous soyons actifs avec un muscle solide, avec des bras qui vont agir, des mains qui vont saisir, des mains qui vont faire, qui vont guérir, qui vont bénir. C'est ça le corps de Christ. Vous êtes avec moi ? Voilà. Et vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps. Christ est la tête. C'est lui qui nous donne l'instruction, qui nous conduit, qui nous encourage. Mais si le corps n'agit pas, le corps va être par terre. Nous ne disons pas non. Dieu est souverain, c'est Christ qui fait tout. Dieu sait toute chose. Arrêtons d'être religieux comme ça. Parce que par des applications simples, nous pouvons faire la démonstration que nous nous trompons. Et nous sommes dans des interprétations anti-bibliques. Le corps doit être en mouvement. Et nous sommes le corps. Vous êtes le corps. Amen. Un amen et demi. Alléluia. On continue. Alors, ambassadeur pour Christ. Et Jésus nous trouble par ses propos. Il nous dit, vous êtes d'ici-bas. Il parlait à la foule. Il parlait aux gens, aux disciples qui étaient autour. Et il dit, vous êtes d'ici-bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. Wow, première gifle là, que Jésus donne à la foule, et on essaye d'imaginer la foule quand ils étaient là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que les hommes fonctionnaient comme des hommes, ils disaient, mais lui c'est le fils du charpentier, nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, Marie, comment peut-il dire je ne suis pas d'ici-bas? Non, Jésus n'était pas d'ici-bas, certains avaient compris, mais pas tous. Mais nous en tant que croyants, nous devons ne pas oublier ces choses-là. Jésus n'est pas d'ici-bas, il est d'en haut. Son essence, sa nature est divine, et par conséquent, tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il apporte, eh bien, c'est empreint de divinité, de sainteté et de choses qui sont troublantes parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de notre petite intelligence humaine. Amen. On avance. Mon royaume n'est pas de ce monde, j'ai répondu Jésus. Royaume, gardez bien ce mot à l'esprit. Je l'ai mis en jaune à chaque fois dans les slides parce que c'est important. Et cette notion-là aussi, nous n'avons pas fait vraiment attention. Moi, sincèrement, 30 ans de conversion, j'ai peut-être entendu 3 ou 4 fois prêcher sur le royaume. Et ça n'était pas vraiment, on n'a pas senti qu'il y avait une utilité de creuser sur cette dimension. Qu'est-ce que le royaume? Comprendre le royaume. Mais en fait, il y avait là une clé. Il y avait des choses à comprendre. Et si nous avions saisi des choses plus tôt, nous aurions changé notre façon de travailler. Avant, nous allions changer notre façon même de prier, de penser avant. Parce que c'est une notion capitale dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu. C'est Christ qui a annoncé le royaume. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, ou jusque-là, mon royaume n'est point d'ici-bas. nous comprenons que Jésus a un royaume. Jésus est un roi, nous savons qu'il a le titre de roi des rois, mais il y a quelque chose à comprendre. Alors pour nous, c'est compliqué, dans nos temps modernes, roi, il n'y a plus beaucoup de royauté sur cette terre. On a l'Angleterre, on a quelques États où ce sont encore des rois, le Maroc et d'autres, mais beaucoup de ces royaumes modernes vivent plutôt comme des démocraties. Vous voyez, c'est des hybrides entre les vraies royautés, les vrais royaumes et les démocraties. Et nous parlerons des démocraties. Si vous allez voir que c'est déroutant de voir qu'en fait nous pensons être dans le bon, nous chrétiens, les temps modernes, oui, la démocratie, la laïcité, toutes ces choses, mais il n'y a rien de plus négatif que la démocratie. Et nous voyons même dans toute la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. On avance. Son royaume n'est pas humain. On continue. Son royaume n'a rien de commun, important, n'a rien de commun avec ceux que nous pouvons connaître ici-bas. Mais en même temps, si nous avons quelques notions de ce qu'est un royaume, ça va nous aider à comprendre le message de Jésus. Jésus est venu dans un contexte où la terre était remplie de royaumes. J'étais au Togo et là j'étais étonné de voir pas mal de rois. J'étais dans un hôtel où là il y avait une statue taillée dans le bois. Et c'était un roi, je ne me souviens plus de son nom, de cette région-là, parmi les Évées. Et en écoutant les Togolais, eh bien, j'apprenais que dans cette contrée-là, il y avait plusieurs rois à l'époque. Dans les temps anciens, il y avait beaucoup de rois. Et le monde fonctionnait comme ça. Ce n'était pas des présidents, c'était des rois et des royaumes. Et la notion de royaume, elle est diamétralement opposée à ce que c'est une démocratie dans ses valeurs, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de travailler. On continue. Son origine est céleste. Le royaume de Christ, il est céleste, il est divin. En cela, donc, il est incomparable avec les royaumes ici-bas. Mais les fonctionnements du royaume, des royaumes humains, nous aident à comprendre. Si on fait un parallèle, on applique ces choses spirituellement, on comprend à ce moment-là pourquoi Jésus insiste en tant que roi et en tant que royaume qu'il amène ici-bas. On arrive à comprendre comment alors on est censé vivre avec Christ. En tant que chrétien sur cette terre, on est en 2020, mais en même temps nous sommes enfants, filles et fils, et même plus encore du royaume. Nous vivons deux réalités, nous sommes humains, vivant dans un monde séculier avec ses contraintes, on est malade, on est fatigué, on est triste, on est heureux, mais et nous sommes soumis à nos lois, à la démocratie, donc à la République française, mais en même temps nous sommes soumis et avant tout à Christ, et nous sommes mandatés par son royaume. Vous êtes avec moi ? Amen, on continue. Son royaume ne dépend de personne. On continue. Son royaume n'a besoin d'aucun appui militaire. Et enfin, son royaume est spirituel et éternel. Voilà, c'est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. Hein. Quand Christ est venu, il a dit, le royaume s'est approché de vous. Alors les gens, ils voient, qu'est-ce qu'il raconte ce Jésus-là ? Il est où le royaume ? Il est où le roi ? Le royaume s'est approché de vous, mais Jésus n'est pas venu en roi, il est venu en serviteur, mais en même temps, il a porté un royaume sur terre. Et ce mot royaume, nous le verrons plus tard, mais ce mot royaume, c'est dans l'original, dans le grec, c'est une domination, une autorité royale. Et c'est ce que Christ ramène sur terre lorsqu'il vient dans un corps d'homme, que Dieu se fait homme et qu'il vient en Christ. Le royaume s'est approché de vous. Mais pourquoi il nous parle d'un royaume ? Et ce royaume, c'est tout simplement le royaume, l'autorité royale qui a été perdue en Éden avec Adam et Ève. J'avais dû vous parler déjà de cela. Lorsqu'ils ont péché, ils se sont déviés du plan de Dieu parce que Dieu avait mis sur eux cette autorité royale, ce pouvoir, cette domination. Il leur a dit dominer sur les animaux, dominer sur cette terre et multipliez-vous. C'était leur donné par le Seigneur. Et le péché a fait qu'ils se sont détournés et un autre que nous connaissons tous, Satan, est venu. Et cette autorité royale, alors, a été arrachée. Et c'est comme cela que Satan est devenu le prince de ce monde. Vous comprenez ? Il y a toute une logique affolante. Lorsque nous nous penchons dans la parole de Dieu, nous essayons de comprendre les mécanismes, comment les choses se sont produites. Eh bien oui, cette royauté a été retirée d'Adam et Ève. Cette autorité royale, cette domination, leur a été retirée. Ils ont continué à vivre, ils ont eu des enfants, et nous arrivons jusqu'à maintenant. Dieu a régné en tant que roi. L'Éternel, c'était le roi d'Israël, vous êtes d'accord ? Il s'est fait connaître à son peuple comme un roi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a transporté. Vous comprenez ça? Soyez un peu comme des enfants, soyez simples et malléables. Ne cherchez pas des hauts niveaux intellectuels pour comprendre la parole de Dieu et raisonner en images. Nous étions dans un royaume, vous voyez, c'est l'image de nous, ça. Nous étions là, dans le royaume des ténèbres avant de connaître Christ. Et Dieu, par Christ, nous prend, et c'est ce qu'il dit là, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est littéralement un changement de destination, un changement de lieu de vie. Là où nous évoluions, nous étions dans un royaume rempli de ténèbres, il nous a arrachés, délivrés et transportés dans le royaume de son Fils. Donc il y a quelque chose à comprendre, vous comprenez? Et nous pouvons le comprendre parce que nous avons tous vécu la conversion, la nouvelle naissance et toutes ces choses-là. Mais en nous appuyant sur les Écritures, alors ces choses-là qui sont parfois abstraites dans notre esprit, elles prennent un peu plus forme, vous comprenez? Nous avons été transportés. Christ nous a transportés dans le royaume. Dieu nous a transportés dans le royaume de qui? De son Fils. Alléluia. Donc nous avons changé de nature, nous avons changé nous avons changé littéralement de nature. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Là, il parlait donc aux Juifs. Les païens n'étaient pas considérés, n'étaient même pas destinés à bénéficier des mêmes grâces qu'Israël. Mais en Christ, il y a ce mur qui a été abattu et il n'y a plus deux peuples, mais un seul peuple. Vous comprenez? Et c'est ce que Christ a fait en mourant sur la croix. Vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux. Vous êtes d'accord avec ça?
Amen.
Dites amen alors.
Amen.
Tout le monde qui a dit amen?
Amen.
Pas tout le monde, hein. Vous êtes timide. Vous n'osez pas. Vous êtes tellement digne. Hein. J'aimerais bien vous voir à la Beaujoire, quand il y a votre équipe préférée. Si vous êtes aussi digne dans vos fauteuils. Nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Oui, c'est souvent la galère, c'est difficile ici-bas, je souffre, c'est difficile, la vie est dure, mais je suis citoyen des cieux. C'est ça qui va m'aider à relever la tête et à renouveler, à rafraîchir mon espérance. De là, c'est-à-dire d'où, des cieux, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Mais nous ne sommes pas au Club Med dans un fauteuil avec un cocktail en attendant le retour de Jésus, non. Il nous a confié un travail, une mission à accomplir ce qu'il a commencé. Donc, la notion de royaume, ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement une image, mais une réalité. Tout comme la notion d'ambassadeur, et nous y arrivons tranquillement. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. En voulant parler donc des juifs et des non-juifs, notamment. Et nous a fait siéger. Là aussi, c'est vraiment puissant, là, les mots que Paul utilise. Nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Vous comprenez ce sur quoi vous êtes assis, vous l'appelez comment, là? C'est une chaise, hein? C'est pas un siège. Est-ce que le mot siège vous fait comprendre quelque chose? Quand on dit à une personne, je vais vous aider, à une autorité, une personne qu'elle siège en tant que ministre, elle siège en tant que député, elle siège, ça veut dire quoi ce terme de siège? On ne parle pas d'un fauteuil seulement, d'un titre qui est lié à quoi, qui donne quoi ce titre? Une autorité, vous avez compris? Nous siégeons dans le monde céleste. Alors là, vous êtes assis au culte, nous sommes ensemble, mais en même temps, et dans votre vie tous les jours, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes à la maison, vous cuisinez, quoi que vous fassiez, en parallèle aussi, vous êtes assis, vous avez une position dans le lieu céleste et vous siégez. Vous n'êtes pas esclave ou serviteur, non, vous siégez. Et nous, vous savez que nous siégeons pour servir les autres. On ne siège pas pour se faire servir. Mais cette notion de nous siégeons dans le lieu céleste, c'est à l'égard des royaumes ennemis et notamment du royaume de Satan. Nous exerçons une autorité parce que nous sommes assis, nous siégeons. Nous avons cette autorité que Christ nous a donnée et nous siégeons dans les lieux célestes. Et tout en étant ici-bas, nous avons aussi cette position là-haut. Et quand nous saisissons, nous comprenons ces choses, eh bien, notre foi se transforme et nous commençons à prier différemment. Alors si Jésus, je suis là comme une petite chrétienne, je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est difficile pour moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais mon cœur brûle pour te servir. Alors Seigneur, mais tu dis que je siège aussi en haut, alors ça veut dire que je peux changer ma façon de prier, prier différemment sur le monde qui m'entoure. Si je siège, c'est que tu m'as donné donc, une autorité. Sur qui je l'exerce mon autorité? Sur le peuple de Dieu, non? Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu déjà? Là, vous réfléchissez en fait, c'est ça? Vous pensez là, vous creusez. Je veux juste m'assurer. Là? Faites un sourire là, ceux qui. Ils ont des mines un peu graves là. Là, quand vous souriez, ça descend. Hein. Sinon, ça reste bloqué quelque part. Ainsi, si quelqu'un est né à Christ, il appartient. On avait terminé l'autre, le frère là, parce que je crois qu'il va vite, hein, non? Non, ça va, merci mon frère, pardon. Je suis bien, au contraire. Ainsi, si quelqu'un est né à Christ, il appartient à une nouvelle création. T'es avec moi? Il appartient à une nouvelle création. Donc, si tu es en Christ, tu fais partie d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça aussi, ce texte, on en a fait un texte pour tout. Nous, pasteurs, prédicateurs, on l'a mis à toutes les sauces. Oh, t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau maintenant. Mais les gens, c'est difficile pour eux, ils galèrent. Et on leur sort ça comme des formules magiques. Ça veut dire, bah écoute, reste dans ta galère. Dieu est souverain. Non, 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 c'est pas ça le message. C'est pas ça que Paul veut dire. C'est pas ça. Nous, les humains, on cherche des raccourcis. Et puis, on est un peu religieux, on est un peu pharisiens sur les bords. C'est pas du tout ça. Bien sûr, Christ nous a changés. Bien sûr, notre vie d'avant, c'est fini. Nous sommes sauvés maintenant, notre vie est changée. Mais nous restons ce que nous sommes, oui ou non? En tout cas, moi, c'est le cas. Peut-être que vous avez atteint un niveau que je n'ai pas encore atteint. Mais moi, je vis toujours les mêmes contraintes qu'avant. Je suis sauvé, je suis rempli, j'ai le Saint-Esprit, mais je continue à vivre les contraintes d'avant, les combats, les difficultés. Vous êtes d'accord? Ah, donc on est dans le même monde, alors ça va. Vous me rassurez? Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles. Écoutez bien, les choses nouvelles sont venues. C'est ça dans le texte grec, littéralement, ce que ça veut dire. Les choses nouvelles sont venues, ça veut dire quoi? Jésus vient, il annonce le royaume. Il dit le royaume s'est approché de vous, le royaume est là au milieu de vous. Mais en même temps, dans son message, Jésus annonce un royaume à venir. Alors on dit, c'est quoi Jésus? Il va venir ou il est là le royaume? Eh bien, c'est les deux. Le royaume à venir est déjà venu en partie. C'est avec moi? Je dis, oh le frère, il a chauffé là. Non, véritablement, le royaume à venir est déjà venu. Il y a eu une intrusion du royaume à venir, du royaume divin, du royaume céleste, dans ce monde quand Christ est venu. Et il a dit, le royaume s'est approché de vous. Et la puissance de ce royaume s'est manifestée comment? Par des guérisons, des miracles, des démons, des démons chassés. Parce que le royaume de lumière est descendu ici. Et Satan, le royaume des ténèbres qui avait le monopole jusque-là, ne pouvait plus tenir parce qu'il n'avait plus le monopole. Vous comprenez? Il n'était plus seul. Un royaume plus puissant que le sien arrive sur terre. Et son royaume est confronté. Boum! Et là, il y a des explosions. Il y a des manifestations de puissance parce que le royaume de Christ est revenu sur terre. Physiquement, spirituellement, le royaume de Christ est revenu. Et c'est en cela que nous pouvons vivre déjà le royaume à venir. Et nous allons aller dans ce royaume. Pas de contradiction. Nous commençons à vivre. C'est ce que nous pouvons lire, les arts de l'esprit. Nous avons reçu les arts de l'esprit, les arts. Un acompte, c'est même mieux qu'un acompte, parce qu'on ne le retire pas. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère. Le ministère de quoi? À qui il a confié le ministère de la réconciliation? Ouvrez la bouche! J'ai entendu vraiment. C'est qui vraiment? À qui Jésus a-t-il donné le ministère? À nous. Ça veut dire quoi, nous? Ah, j'ai entendu à moi, à l'Église. À chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux. Vous entendez? Et là, il n'est pas question de diplôme. Hein. Vous savez, dans le royaume de Dieu, ça marche tout à l'envers. Hein. Mon père avait fait des études, il était gradé dans la police. Et ma mère, elle, avait été peu à l'école. Et elle est restée pratiquement toute sa vie à s'occuper de nous. Donc mon père avait une certaine prestance, une certaine fierté, vous voyez. Surtout chez nous, les maghrébins, les hommes, oh là là. Pouf, je suis l'homme. Mais quand on est venu à Christ, ma mère, elle est partie devant. Baptisée du Saint-Esprit, elle n'était pas baptisée. Des songes, des visions, des révélations, bam, des prophéties. Et là, mon père a dit, oh, il y a un problème là. Doucement, c'est moi là. Ah, j'ai souri, j'ai dit, mon père, t'as rien compris. Hein. Ici, là, dans le royaume, c'est tout à l'envers. Hein. tu viens avec tes diplômes, ton sac, ton ordinateur. Suis-moi, Seigneur, je suis prêt. Mais nous, Jésus n'a pas besoin de toi. Jésus va chercher le petit là, la petite qui est dans le coin, qui bégaye, qui ne sait pas parler, qui peut-être est mis de côté. Et le Seigneur, il va se glorifier avec eux là. Vous avez compris ? Et ça, ça fait partie de notre transformation. Nous devons être transformés dans notre intelligence avec ces choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas servir de ceux qui sont diplômés. Mais il y a une question de cœur qui doit changer. On ne doit pas établir notre position en Christ parce que nous sommes vis-à-vis de ce monde et vis-à-vis de la parole de Dieu. On avance. En effet quoi ? Il confirme que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Donc là, Paul veut prendre le temps de nous faire comprendre. Vous avez le ministère de la réconciliation. En effet, et là, Paul nous fait une démonstration. Il nous explique le processus. Comment est-ce que c'est possible que nous soyons ministre de la réconciliation ? Et il dit, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Il y a une belle application, il y a une belle image. Christ était en Dieu et réconcilié le monde avec lui-même. D'accord ? Christ, il est où maintenant ? Il est auprès du Père. Qui est sur terre ? Le Saint-Esprit, et nous ? On est où, non ? Hein ? Vous m'avez fait peur. Vous avez vu le réflexe ? Le Saint-Esprit. Il y a nous, hein ? Physiquement, là. Alors, je vais vous parler du Saint-Esprit aux gens, ils vont chercher. Il est où ? Mais vous, il vous voit. D'accord ? Donc, il y a nous, et il y a le Père, que nous prions, tout comme Christ priait le Père. Vous vous souvenez ? Il nous a préparé d'avance. Jésus ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce qu'il doit faire au Père. Amen.
Amen.
Donc nous continuons et nous reproduisons le travail. On continue. Et il a fait de nous, non. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Christ a réconcilié les hommes avec le Père. Il part, il nous confie le royaume. Vous êtes d'accord avec ça ? Petit troupeau, n'ayez crainte, car il a plu au Père de vous remettre le royaume. Ça tilte un peu là dans vos pensées ? Il a plu au Père de vous remettre le royaume. Donc le royaume est entre nos mains et nous sommes responsables. Donc, Christ partant auprès du Père, nous devenons quoi ? Les dépositaires du royaume, dépositaires du message de la réconciliation. Nous devenons les dépositaires. Christ remet le message et le remet à autant de personnes parce que nous sommes tous les dépositaires du message de la réconciliation. Un dépositaire, c'est quoi ? C'est un garant. En fait, le dépositaire, c'est celui à qui on remet quelque chose et celui qui fait le dépôt est censé revenir le chercher. Ça vous rappelle quelque chose, ça, dans les paraboles ? Les talents, hein ? Nous sommes les dépositaires. Jésus, dans la parabole des talents, il montre que nous devons faire quoi ? Fructifier. C'est-à-dire que nous avons des comptes à rendre dans la manière dont nous avons fait fructifier les talents. Nous sommes dépositaires, donc nous avons quelque chose à faire fructifier. Parce que celui qui nous a donné le dépôt va revenir le récupérer. Il va venir nous demander des comptes. Amen, hein ?
Amen.
Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Ça va ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça vous semble logique ? Est-ce que c'est biblique ? Vous avez vu, on a fait lire la parole. Hein ? Nous sommes donc ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Et là encore, il n'est pas question des pasteurs, des ministres, des missionnaires. Il est question du peuple de Dieu. Dès lors que je connais Christ, je deviens dépositaire du message de la réconciliation. Et ce que j'aimerais que le travail qui s'opère en vous, c'est que vous soyez débarrassés de tous ces concepts-là où j'ai entendu, moi, dans les églises, je vivais une réalité, je voyais autre chose. Moi, vous savez, quand le Seigneur a utilisé notre famille, on a prié pour des gens, on a chassé des démons. J'arrive dans l'église, on dit non, faut pas imposer les mains, faut que facile. Ok, on fait quoi alors ? Ben, vous asseyez, vous écoutez le culte. Surtout, vous donnez votre dîme et puis on se revoit dimanche prochain. C'est ça l'église ? Alors j'ai dit, bon, ok, t'es qui ? C'est eux les hommes de Dieu, donc je vais les écouter. Et pendant un temps, eh bien, on a, entre guillemets, obéi, on a appliqué. Et on vivait plus qu'on vivait avant. Le temps passe, on grandit, puis on comprend qu'il y a un souci dans la façon dont on comprend et dont on vit, avec laquelle on vit l'évangile. Tout ça doit se faire dans l'ordre, dans la soumission aux autorités. Mais ça ne veut pas dire que les autorités doivent tout faire. Non, vous êtes appelé à prier pour vos amis. Vous êtes appelé à même enseigner ceux que vous amenez à Christ. Premier réflexe du chrétien, oh, c'est j'ai amené un homme à l'église, j'ai amené un ami à l'église. Alléluia, c'est bien. Mais tu n'es pas appelé qu'à amener des gens à l'église. D'abord, tu peux t'occuper d'eux. D'accord ? C'est pas le pasteur, les pasteurs seulement qui ont reçu le message, qui sont dépositaires. Vous êtes dépositaires. Donc vous devez assumer votre rôle de dépositaire du message de la réconciliation. Vous devez l'annoncer, ce message. Et vous devez bénir comme Christ a béni, comme les disciples ont béni ceux qui étaient autour d'eux. On continue. Comme si Dieu donc adressait cette invitation aux hommes, donc là c'est la suite de ce que nous venons de lire, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Il nous faut même une proposition de prière et il nous invite, Paul nous invite à l'action. Et voilà ce qu'il nous demande d'annoncer autour de nous. On continue rapidement. Puisqu'à l'ambassadeur, on va avancer très vite. Et on reviendra sur ces notions, mais regardez ce qui est écrit. L'ambassadeur, c'est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Et tu n'appartiens pas à ce royaume. Tu appartiens au royaume de Christ. Et tu es ici sur terre. Et si tu es ambassadeur, ça veut dire quoi ? À la lecture de ce texte, qui n'est pas biblique, hein, et qui définit ce qu'est un ambassadeur, tu es dépositaire de l'autorité de l'État. De quel État on parle alors ? On parle du royaume de Christ, hein. Tu es dépositaire de l'autorité du royaume de Christ, de ce royaume, ou dans le pays où tu es accrédité. Et tu as été accrédité ici en France, à Nantes. Donc ici, tu dois exercer ton rôle d'ambassadeur. Amen. C'est clair pour tout le monde ou pas là ? Ok, je trouve que vous avez chaud là. Hein. On avance. Il est chargé sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères de la mise en œuvre de la politique extérieure de son État. Et la politique extérieure du royaume de Dieu, c'est de venir confronter le royaume des ténèbres ici-bas et d'étendre le royaume de Christ sur cette terre où le royaume des ténèbres a régné pendant des siècles. Mais où la donne change parce que Christ, le royaume de Christ est plus puissant. Il représente qui ? Le président de la République, le gouvernement, chacun des ministres. Un ambassadeur, il représente tout ça. Ça veut dire que lorsque tu es en action pour le royaume de Dieu, eh bien, le monde spirituel voit en toi Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il voit les anges et sa cavalerie. Il voit le royaume de Dieu tout entier. Alléluia ! Et c'est dans cette foi que nous devons vivre, parce que c'est la réalité. Alors certains peuvent dire, oh lui là, il est un peu trop enfantin, un peu féerique dans son message. Hein. Moi, j'ai une vision un peu plus théologique. Mais si tu as une vision théologique, eh bien tu dois croire à ces choses-là. Amen. Parce que Christ n'a pas parlé en parabole et en image pour rien. Et Paul, qui n'a pas connu Christ seulement par révélation, et nous comprenons comment la révélation était puissante, c'est qu'il avait compris ces choses. Et nous terminons, parce que je crois que c'est terminé. Les ambassadeurs sont nommés par le roi ou le président lui-même. Un ambassadeur est nommé pour représenter la nation qu'il envoie, pas lui-même. Donc quand tu dis, oh mais moi je ne me sens pas appelé, il n'est pas question de toi. Va, parce que celui qui t'envoie t'a demandé de le faire. Tu n'es pas capable. Alléluia. Il va être plus capable en toi.
Amen.
L'ambassadeur est engagé seulement à défendre les intérêts de son pays et de ses ressortissants. C'est pour ça qu'on prie pour nos frères et sœurs autour de nous et dans le monde. Amen. On va terminer avec cela. Voilà, tout ça pour titiller un peu vos pensées, votre esprit, votre foi. Que les choses dans votre cœur, dans vos pensées prennent du relief et soient aussi un peu peut-être dépoussiérées de notre routine de l'évangile. Voilà le message de Christ. Ce n'est pas des choses inventées, ça vient de la parole de Dieu. Et ce sont des réalités que nous vivons sur le terrain. Et notre désir, c'est que les églises, quelles qu'elles soient autour de nous, de toutes les dénominations évangéliques, notre désir, nous, c'est de voir les gens se réveiller, les chrétiens se réveiller. Et prendre leur place dans le royaume de Dieu. Parce que mon Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu a pour toi des œuvres préparées d'avance et il attend que tu les accomplisses. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la richesse. Merci pour la gloire, les gloires que tu nous dévoiles, Seigneur. Je te prie par ton esprit d'agir maintenant dans le cœur de ces bien-aimés qui sont là ce matin, Seigneur. Je ne suis qu'un homme avec mes limites, Seigneur, mais ton esprit peut toucher et venir valider ta parole, Seigneur, et donner du relief, de la révélation, une puissance et puis une impulsion de ton esprit dans leur cœur, dans leur pensée, Seigneur, au nom de Jésus. Comme l'a dit ton serviteur, que l'intelligence des uns et des autres soit renouvelée, Seigneur, Et c'est ce pourquoi nous te prions, Seigneur, agis. Et que ce qu'ils ont entendu ce matin puisse les nourrir aussi, mais pas seulement, mais les bénir et les propulser de l'avant, Seigneur mon Dieu. Parce que nous croyons que tu as des plans pour cette église, des plans pour Nantes, Seigneur. Et nous voulons voir ta gloire autour de nous. Bénis et fortifie chacun ici ce matin. Et parle à leur cœur, Seigneur. Envoie-les afin qu'ils rentrent à la moisson, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.